Bonjour, bonjour et bienvenue à un nouvel épisode des Berceuses occultes. Un épisode bien spécial parce que je vais m'intéresser au livre « Les secrets admirables du Grand Albert » et plus précisément au troisième livre « Curiosités merveilleuses » parce que « Les secrets admirables du Grand Albert » est en fait formé de quatre petits livres. Et oui, comme le nom de l'épisode le dit, un peu comme une mouche, ça va tourner largement autour de la merde. Ou plutôt, autour des propriétés salutaires défiantes. Mais bon, avant de prendre notre souffle pour pénétrer tête première dans ce sujet chaud, on va parler un peu du grimoire lui-même, les secrets admirables du Grand Albert. Bon, avant tout, il y a plusieurs versions de l'ouvrage, dont plusieurs ont quand même de bonnes variantes, mais qui se ressemblent quand même somme toute, avec quelques ajouts ou omissions à gauche et à droite. Il y a entre autres des différences dans l'ordre des textes, dans le nombre des illustrations, mais aussi et surtout dans la formulation du texte. La première édition du Grand Albert daterait de 1478 sous le titre « Liber Secretorum Alberti Magni de Virtutibus Herbarum ». C'était donc à l'origine en latin. Et il va falloir attendre un petit bout avant d'avoir une traduction française de l'ouvrage, pas avant le 16e siècle. Et ça, c'est quand même assez dommage parce que le titre en latin, il n'est pas facile à dire. Comme disait si bien Voltaire, « C'est pénible que le Saint-Cyboire ». Il disait tout le temps ça. En tout cas. Bref, pour l'épisode, je vais me baser sur une version de 1895 sortie chez les éditeurs Chez tous les libraires, qui est une version collectionnée sur l'édition latine de 1651, donc la plus proche de l'original. Bon, j'ai pas vérifié toutes les versions de l'ouvrage parce qu'il en existe vraiment beaucoup. J'ai toutefois remarqué que parmi toutes les éditions, il y a deux formes qui reviennent assez souvent. Et les deux formes n'ont pas exactement le même nom. C'est assez subtil, mais ça permet de les différencier. Les versions les plus proches de l'original sont baptisées « Les secrets admirables du Grand Albert », tandis que l'autre porte le titre « Les admirables secrets d'Albert le Grand ». C'est le cas de la version datant de 1703, 1729 et 1757. En gros, on a simplement inversé « admirable » et « secret ». C'est pas grand-chose, mais si vous ouvrez l'ouvrage, vous allez voir qu'il y a quand même une distinction entre les deux versions. On peut en parler un peu. L'ouvrage contient quatre livres qui traitent de sujets différents. C'est surtout le premier qui varie beaucoup entre les deux versions. Originalement, on parle des astres et des planètes, mais dans la version plus tardive, on retrouve des sujets comme « Comment est engendré l'homme? De quelle manière se forment les fœtus? » et « Pourquoi les femmes accouchent dans le sixième mois? » Ouais, fait que vous comprendrez que c'est pas très très à jour dans les grandes percées scientifiques. Par contre, on y retrouve tout le contenu du livre dans le livre 2. Donc, en gros, entre les deux versions, c'est surtout la disposition du texte qui change. Dans la version qui est plus récente, il y a un peu de blabla supplémentaire à gauche à droite, mais comme disait si bien Platon, on s'entorche un peu. Tout ça pour dire que ne vous inquiétez surtout pas. Peu importe la version sur laquelle vous parviendrez à mettre la main, vous allez y retrouver tous les mêmes judicieux conseils, ainsi que la même sagesse qui imprègne chacune des pages. Ceci étant dit, abordons immédiatement le troisième livre, qui révèle, entre autres choses, et surtout, les secrets des propriétés salutaires défiantes. Oui, oui. Et c'est ici que j'aurais glissé un sound effect de pète, si mon podcast aurait fait dans la vulgarité gratuite. Mais non. Le livre a pour titre « Curiosité merveilleuse » et il tient bien son nom. Je vais donc y aller d'un extrait du premier chapitre baptisé « Mystère naturel ». Albert, ce savant homme, s'est particulièrement attaché à faire des expériences sur des choses naturelles mais incompréhensibles aux hommes. Il a si bien réussi qu'on dirait que cette science lui est infuse. et nos lecteurs nous seront grés de leur offrir ici ce que nous avons trouvé de plus utile dans ses écrits. Pour faire passer un œuf dans une bague sans le casser, laissez tremper un œuf pendant 5 jours dans un bon vinaigre. Il sera devenu assez mou et souple pour qu'on le fasse passer partout où l'on voudra. Albert Legrand, il aurait super bien marché sur TikTok.
Clairement quelque chose à essayer dans un short.
Mais bon. Pour se faire aimer, avec du jus de verveine, frottez-vous les mains et tendez-les à l'objet de vos désirs. La personne, à votre contact, se sentira séduite. Pour savoir si un malade guérira, tenant en main un bouquet de verveine, approchez-vous du lit du malade. Demandez-lui comment il se porte. S'il vous répond « ça va mieux », il en réchappera. S'il vous dit le contraire, il est perdu. Pour chasser les démons, ayez sur vous le cœur d'un vautour lié avec un poil de lion ou d'un loup.
Je sais pas pour vous, mais j'ai pas accès si facilement à des poils de lion ou de loup.
Rendu là, c'est plus simple de concevoir la verge foudroyante du dragon rouge, ce qui reste quand même, disons-le, assez compliqué.
Ouais, ben là, si c'est trop ardu, tu pourrais quand même créer la baguette mystérieuse de la page 56 du Dragon Rouge. Pour les gens qui ont justement pas les connaissances pour créer la verge foudroyante, c'est une alternative qui se défend bien.
C'est pas bête. Mais il n'y a pas de personnage ici.
Eh bien, c'est bien dommage. Je m'en vais.
Bon. Pour empêcher l'eau de bouillir, enlevez le gros os du côté droit d'une grenouille et jetez-le dans de l'eau bouillante. L'ébullition cessera quelque feu qu'on fasse dessus. Pour faire bouillir de l'eau sans feu, l'os du côté gauche de la grenouille produit tout le contraire du précédent, car il fait bouillir l'eau sans feu. Cet os nommé Oponicum rend amoureux ceux qui en boivent dans un liquide quelconque ou qui se l'attachent à la cuisse. De plus, dit Pline, il calme les chiens enragés. C'est pas négligeable. En parlant de Pline l'Ancien, cité à quelques reprises dans l'ouvrage, 3 fois pour être très exact, c'est l'auteur d'une impressionnante encyclopédie de 37 volumes. On parle ici d'environ 5000 pages, dépendant des versions. En gros, pour résumer grossièrement, il a rassemblé, compilé, peaufiné, distillé une importante portion du savoir de l'époque, le tout adapté sous sa plume. Son œuvre est une mine d'or inépuisable de renseignements sur les habitudes de vie des Romains du 1er siècle. Bon, évidemment, pour l'avoir parcouru un peu, je peux vous dire que ça fait sourire. Notre maîtrise de la science a beaucoup évolué. Détail intéressant à propos de ce bon Pline, il compte parmi les victimes de Pompéi lors de la fameuse éruption du Vésuve. Mais ce qui est digne de mention, c'est qu'au moment où tout le monde fuyait la zone dans la panique la plus grande, lui, au contraire, il s'en approchait, fasciné par le phénomène. Cette information-là nous provient de Plinthe le Jeune, son neveu, dans une lettre qu'il a écrite à l'intention de Tacite, son bon chum historien et philosophe à ses heures. Je trouve qu'il y a quand même quelque chose de fascinant dans ces vieilles correspondances-là. Et là, je sais que vous êtes impatient qu'on rentre dans le sujet des fientes, mais malgré tout, je vais quand même vous lire la lettre. Et ce n'est pas de ma part une fantaisie gratuite, parce que Plinthe aura son importance plus tard dans l'épisode. Il était à Misène, et de sa personne commandait la flotte. Oui, parce qu'il était posté en tant que commandant de la flotte romaine ancrée dans le port de Misène. Le 9 des calendes de septembre, le 24 août, vers la 7e heure de la journée, la première heure était comptée du lever du soleil, ma mère lui dit qu'il apparaissait un nuage d'une grandeur et d'une forme extraordinaire. Mon oncle s'était chauffé au soleil, avait pris de l'eau froide, puis couché, avait fait un goûter, et il étudiait. Il demanda ses sandales et monta un endroit d'où la merveille était plus visible. À le voir au loin, on ne savait de quelle montagne le nuage sortait. On sut depuis que c'était le Vésuve. De tous les arbres, le pin était celui qui représentait le mieux la ressemblance et la forme. En effet, le nuage avait un tronc très allongé qui s'élevait vers le haut, puis se partageait en un certain nombre de branches.
sans doute, à mon avis, soulevé par le souffle encore récent, puis abandonné par ce souffle qui faiblissait, ou même affaissé sous son propre poids. Il se raréfiait et s'élargissait. Il était tantôt blanc, tantôt sale et taché, suivant qu'il avait entraîné de la terre ou de la cendre. Un homme aussi savant que mon oncle jugeait un pareil phénomène considérable et digne d'être connu de plus près. Il commande qu'on prépare une liburnique.
Bon, une liburnique, là, c'est un petit bateau léger qu'utilisaient les Romains à l'époque.
Parce que Pline doit se situer à Misène, il peut voir le Vésuve au loin.
Mais il faut quand même qu'il traverse la baie de Naples pour se rendre jusqu'à là. De sa position jusqu'au Vésuve, il y a à peu près 30 km.
Il me donne le choix d'aller avec lui ou de rester. Je répondis que j'aimais mieux étudier. Et le hasard avait fait que lui-même m'avait donné quelque chose à écrire. Il sort de la maison. Il prend ses tablettes.
Arétine, les matelots, effrayés de l'immense du péril, le suppliaient de se dérober à un danger si grand. En effet, Rétine est une des maisons de campagne au pied de la montagne et dont on ne pouvait s'échapper par la mer. Lui change de dessein et ce qu'il avait commencé par désir de s'instruire, il le poursuivit par générosité. Il fait mettre en mer des quadrirèmes. Il s'embarque lui-même, portant secours non seulement à Rétine, mais à d'autres endroits, car ces lieux charmants étaient très fréquentés. Il court là où les autres fuient, et il gouverne directement vers le péril, tellement libre de crainte qu'il notait et dictait tous les mouvements, toutes les figures de ce phénomène à mesure de leur apparition. Déjà les cendres tombaient sur les vaisseaux, d'autant plus chaudes et plus épaisses qu'on approchait davantage. Déjà même arrivaient des pierres ponces et des pierres noires, calcinées et brisé par le feu. Déjà le fond de la mer s'était subitement élevé et les montagnes écroulées barraient le passage. Il hésita un moment s'il ne retournerait en arrière. Puis au pilote, qui lui conseillait de le faire, il répondit « La fortune vient en aide aux hommes courageux. Gouverner vers Pomponianus. »
Bon. Pomponianus, on ne sait pas grand-chose sur lui. On ignore la date de sa naissance ainsi que la date de sa mort. Tout ce qu'on sait, c'est que Pline gouvernait vers lui et qu'il était un peu pissou. Bon, il y a des doutes qu'il s'agirait de Gaius Tellius Capitius Pomponianus Pietius Firmus. Mais c'est pas sûr. Puis de toute façon, on s'en cale Ius Crissus. Pomponianus était à Stambi. Là, le danger n'était pas encore voisin, mais il était apparent. Et s'il croissait, il allait être imminent. Aussi, Pomponianus avait fait porter son bagage dans les vaisseaux, décidé à fuir si le vent contraire tombait. Mon oncle, amené par ce vent, qui lui était très favorable, embrasse son ami effrayé, le console, l'exhorte, et, pour diminuer par sa sécurité les terreurs de Pomponianus, il se fait donner un bain. Après le bain, il se met à table, dîne gai ou paraissant gai, ce qui est non moins magnanime. Cependant, le mont Vésuve, à plusieurs lieux, projetait des flammes très larges et des incendies élevés, dont la lueur et l'éclat s'accroissaient par les ténèbres de la nuit. Mon oncle, pour dissiper la frayeur, répétait que c'étaient des maisons de campagne qui, abandonnées et désertées, par les paysans épouvantés, brûlaient dans la solitude. Alors, il se livra au repos et dormit d'un véritable sommeil, car sa respiration, pesante et bruyante, était entendue de ceux qui se trouvaient sur le seuil de l'appartement. C'était un gros ronfleur. Mais la cour dans laquelle on allait au corps du logis se remplissait déjà de cendres et de pierres ponces, à un tel point que si on était resté plus longtemps dans la chambre, on n'aurait pas pu en sortir. Réveillé, il rejoint Pomponianus et les autres. Là, on délibère s'il vaut mieux rester dans la maison ou errer en plein air. En effet, les murailles chancelaient par de fréquents et violents tremblements, et elles semblaient, de ça et de là, aller et revenir. En plein air, on craignait la chute de pierres ponces légères et calcinées. La comparaison fit choisir ce dernier péril. Chez lui, la raison triompha de la raison. Chez d'autres, la crainte de la crainte. On se mit des oreillers sur la tête et on les attacha avec des linges.
c'était la protection contre les chutes de pierre. Déjà, il faisait jour ailleurs, mais là, il était nuit, plus noire et plus épaisse que toutes les nuits. Cependant, on s'éclairait avec des torches nombreuses et des lumières de toutes sortes. On résolut d'aller au rivage et de voir ce que permettait la mer. Mais elle restait grosse et contraire. Là, mon oncle se coucha sur un drap, demanda à diverses reprises de l'eau froide et en but. Puis les flammes et une odeur sulfureuse qui annonçait les flammes mettaient les autres en fuite. Et lui, le font lever. Appuyé sur deux esclaves, il se redresse et tombe aussitôt. Je pense que la vapeur épaisse lui coupa la laine et lui ferma le passage de la respiration, qui chez lui était naturellement faible, étroit et fréquemment oppressé. Quand le jour fut rendu, le corps fut trouvé intact, sans lésion et couvert de ses vêtements. Son apparence était plutôt celle d'une personne qui se repose que d'un mort. Pendant ce temps-là, ma mère et moi, nous étions à Misène, mais cela n'importe pas dans l'histoire, et vous n'avez voulu savoir que les détails de la fin de mon oncle. Je terminerai donc ici ma lettre, et je n'ajouterai qu'un mot. C'est que j'ai retracé fidèlement toutes les particularités que j'ai apprises sur le moment, et vous, vous en tirerez de là le meilleur. C'est donc la fin de Plinthe l'Ancien, qui est parti de sa belle mort étouffé dans de la cendre. On va y revenir plus tard. Mais pour l'instant, retournons-en au troisième livre des secrets admirables du Grand Albert. On retrouve ensuite toute une portion plus ou moins douteuse sur le travail et la modification des métaux, comme par exemple comment graver sur tous les métaux pour argenter du cuivre ou encore pour amollir du fer ou de l'acier. Pour les intéressés, pour amollir le fer ou l'acier, c'est certainement pas en le chauffant. Non, non. C'est en frottant votre fer rouge avec une plume imbibée de l'eau qui surnage sur le sang d'un homme qu'on vient de saigner. Si je comprends bien, on parle de plasma ici. Bon, je m'y connais pas beaucoup en forgerie, mais ça semble faire du sens. On y va ensuite avec quelques conseils sur la fertilité, l'impuissance et pour savoir si on attend un garçon ou une fille. Sachez que si vous vous demandez si votre femme est enceinte, vous pouvez le déceler lorsque celle-ci a des fantaisies ou des envies un peu bizarres de manger, genre du charbon pis de la terre. Eh bien, pas de jugement. Il y en a que c'est les cornichons et la crème glacée, et d'autres que c'est le charcoal et le terreau d'empotage Miracle-Gro. Tout ça pour dire que nous y voilà, chapitre 2, les propriétés salutaires des fientes. Et puis là, je vous avertis, les secrets admirables du Grand Albert sont pas tous très admirables. Les excréments humains, Dioscorides, Éginette, Galien et autres docteurs illustres font un grand cas des excréments de l'homme comme remède contre l'esquinancie et les maux de gorge. Voilà la manière de les préparer. Pendant 3 jours, on donnera à manger à un jeune homme de bon tempérament et en parfaite santé des lupins avec du pain bien cuit, dans lequel il y aura peu de levain et de sel. On ne lui fera boire que du vin clairette. Et il s'abstiendra de toute autre nourriture. Il faudra rejeter, comme inutile, les excréments qu'il rendra le premier jour et conserver soigneusement ceux du deuxième et troisième jour, que l'on mêlera avec autant de miel, bu ou avalé comme de l'opiat ou appliqué comme emplâtré à l'intérieur. Ce remède est souverain. Alors, prenez bonne note. La prochaine fois que vous avez une grosse amygdalite, beurrez-vous le fond de la gorge de marde. C'est écrit dans un livre, ça doit être vrai. Les fientes de chien. On enferme un chien pendant 3 jours et on lui donne que des os à ronger. On ramasse sa fiente et on la fait sécher. Elle est bonne et admirable pour la dysenterie. Pour s'en servir, on jette dans un vase plein d'urine des cailloux rougis par le feu. Et on y mêle un peu de la poudre ci-dessus. Le malade doit en boire matin et soir pendant 3 jours, sans savoir ce qu'on lui donne. Il est incontestable, d'après les témoignages de personnes dignes de foi, que ce remède est infaillible. Moi-même, qui vous apprends ce secret, j'ai guéri, il y a 1 an, 200 malades, pendant que plus de 2 000 sont morts du même mal, après toutes les médications et tous les frais imaginables. Les fientes de bœuf ou de vache, enveloppées dans des feuilles de vigne ou de chou, on cuit sous la cendre. Cette fiente guérit les inflammations des plaies et les douleurs sciatiques. Si on la mêle à du vinaigre, elle dissipe les écrouelles. Ah, ces bonnes vieilles écrouelles, hein? On en avait entendu parler dans un épisode précédent. Ça pouvait être aussi soigné par le toucher royal. Fait qu'encore là, le dilemme est assez difficile. Hein? Soit vous mangez de la marde ou vous vous faites toucher par les petits doigts boudinés du roi Charles. Elle est également précieuse pour les tumeurs testiculaires, qui disparaissent en 2 ou 3 jours. Dans ce cas, on fait frire de la bouse de vache fraîche dans une poêle avec de la fleur de camomille, des roses de mélilo et on l'applique en cataplasme sur la partie malade. Eh bien, je prends bonne note. Fiente de porc. Le proverbe dit à tort, tout est bon dans le porc, sauf la fiente. C'est au contraire ce qu'il y a de meilleur, comme le prouve le fait suivant. Un jeune homme qui crachait du sang en abondance était abandonné à toutes les médecines qui y perdaient leur latin. Sa mère, désolée, m'appela et me supplia de sauver son enfant. Et touché de compassion, j'essayai le remède suivant. Je fricassai de la fiente de porc. Excusez. Je fricassai de la fiente de porc avec autant de crachats de sang du malade, en y ajoutant un peu de beurre frais, évidemment. Il lui fit manger, sans qu'il se doute de rien. Le croirait-on? Le lendemain, les savants docteurs qui l'avaient condamné furent stupéfaits de le voir marcher sain et sauf. Pour aller vomir. Fiente de souris, il est certain que mêlée avec du miel, elle fait repousser les poils sur les parties chauves que l'on frictionne. Fiente de petit lézard. Les dames avancées en âge et qui veulent encore paraître belles verront leurs rides disparaître et leur teint acquérir la blancheur et la fraîcheur du lys et de la rose en employant le fard enchanteur de cette recette. Après avoir broyé ensemble dans un mortier, puis passé au tamis, de la fiente de petit lézard, des os de seiche, du tartre de vin blanc, de la raclure de corne de cerf, du corail blanc et de la farine de riz, en quantité égale, faites détremper pendant une nuit cette poudre dans l'eau distillée d'amandes, de limaces et de fleurs de bouillon blanc. Mêlez-y ensuite du miel et broyez de nouveau le tout dans un mortier. Cette pommade doit être conservée dans un vase d'argent ou de cristal bien propre. Hein? Parce que faudrait pas que ça se contamine, cette belle pommade-là. Celles qui s'y en frotteront souvent le visage, les seins et la gorge s'empresseront de rendre hommage à la bonté et à l'efficacité de cette recette. Bon. J'espère que vous avez pris des notes. Mais là, je vous entends. Vous vous dites certainement que tout ça, c'est de l'hostie de marde. Littéralement, oui, effectivement. Mais la grande question, c'est, est-ce qu'Albert le Grand était un tordu coincé dans une perpétuelle phase anale? Eh bien non. L'utilisation des fientes dans les concoctions, à des fins variées, souvent médicales, n'était pas quelque chose de nouveau. Ça existait déjà depuis longtemps. D'ailleurs, notre bon Pline le Sage, il y a presque déjà 2000 ans, en faisait souvent mention dans son encyclopédie de 37 volumes. On peut entre autres y retrouver une recette pour prévenir la rage chez les chiens. La rage qui attaque les chiens pendant les ardeurs de la canicule est funeste à l'homme, comme nous l'avons dit. Les personnes qui sont mordues sont en proie à une hydrophobie mortelle. On prévient cette maladie chez les chiens en mêlant pendant les 30 jours de la canicule de la fiente de poule à leur aliment. Ou si la maladie a pris les devants, on les guérit avec l'élébore. Et pour les curieux, l'élébore est une petite plante qui ne guérit pas la rage. Bon, certaines espèces étaient utilisées à l'époque de l'Antiquité justement pour soigner la folie et la mélancolie. D'ailleurs, elle a été conseillée par Montaigne à l'époque pour soigner les femmes du sabbat des sorcières parce que c'était un remède supposé aux maladies mentales. On retrouve également des recettes pour soigner les morsures de serpent, entre autres avec de la fiente de chèvre bouillie dans du vinaigre qu'on applique sur les plaies. Bref, tout ça pour dire que dans l'œuvre de Plinth, on retrouve à peu près une centaine de fois des mentions aux fientes dans des recettes. Et là, rassurez-vous, c'est pas toujours dans des petites concoctions douteuses. On y fait souvent référence pour ses bienfaits en tant qu'engrais. Je pense qu'il est aussi important de noter que Plinthe a été un grand rassembleur de textes à l'époque. Selon ses propres dires, il aurait puisé dans plus de 2000 ouvrages pour rassembler son histoire naturelle. On y retrouve énormément d'informations inédites de son époque. Par contre, certains lui reprochent d'être un compilateur qui prend autant le mauvais que le bon, et peut-être de manquer un peu de sens critique sur sa sélection. Le gros défaut de Plinthe, c'est peut-être simplement de ne pas avoir été un homme de science. C'était en revanche, par contre, un militaire et un homme public aux fonctions élevées. Quand il était question d'un sujet qu'il connaissait bien, sa sélection de textes était plus pertinente. Mais quand ça touchait à des thèmes qu'il connaissait pas trop, il remettait pas grand-chose en question. Et enfin, concernant les secrets admirables du grand Albert et ses secrets sur les fientes, avant de juger Albert le Grand, rappelez-vous que, le livre n'a pas été écrit par lui et que c'est une accréditation frauduleuse. Et c'est ce qui termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu.
C'était une bien bon épisode. Hein? Félicitations. C'était très rempli d'informations du début à la fin. Il y a une belle rigueur et une touche d'humour. Hein?
C'est fin, mais il y a pas de personnage dans ce podcast-là. Non, toi, le chat, ça compte pas. C'est correct.